Et ce matin, j'aimerais regarder un verset du livre des Actes, au chapitre 9. Le livre des Actes des apôtres ou des Actes du Saint-Esprit, c'est le début de l'Église de Jésus-Christ. Après sa résurrection et son ascension, les premiers chrétiens se multiplient, ils témoignent autour d'eux et des âmes sont ajoutées. Et en même temps, la persécution commence immédiatement. Lorsque l'évangile avance, il y a l'ennemi qui avance pour l'empêcher, pour l'arrêter. Un des plus grands persécuteurs au début, c'était un certain Saul de Tarse. Et en Actes 9, 3 à 6, je lis, « Comme Saul était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville. » Et on te dira ce que tu dois faire. Et j'aimerais m'attarder sur ce dernier verset. Que veux-tu que je fasse ? Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. La question de mon message ce matin, c'est que vais-je faire de ma vie ? Que vais-je faire de ma vie ? C'est la plus grande, une des plus grandes questions qu'on doit se poser. Et malheureusement, souvent on ne se la pose jamais. On vit, on survit. On suit le mouvement, mais on ne s'arrête pas pour dire « Que vais-je faire de ma vie ?» Saul était de cela, il était dans la haine, il haïssait Jésus et les disciples de Jésus. Il était un pharisien, un homme très religieux, très strict dans sa foi, mais aussi un homme très orgueilleux, très violent. Et il avait des lettres du gouvernement pour arrêter les chrétiens, les juifs chrétiens, et les mettre en prison ou même les lapider, les faire tuer. Et dans sa haine, il suivait le mouvement et il a fallu que le Seigneur Jésus l'arrête presque violemment, on peut dire. Il y a cette lumière qui l'a aveuglé, il est tombé de cheval. Et là, il a compris que c'était Dieu qui l'arrêtait. Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il a compris qu'en persécutant les chrétiens, il persécutait Jésus et il persécutait le Messie, il persécutait Dieu. Et à ce moment-là, il est brisé et il cède à Dieu, il dit « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Il appelle Jésus Seigneur. Et Jésus lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et après ce moment, Saul a une nouvelle vie. Il a remis sa vie à Dieu et Dieu l'a utilisé magnifiquement dans tout l'Empire romain pour parler de ce Jésus ressuscité qu'il a rencontré sur la fameuse route de Damas. Que vais-je faire de ma vie ? Nous, on se pose plein de questions beaucoup plus triviales. Qu'est-ce que je vais acheter comme vêtement la semaine prochaine s'il y a les soldes ? Où est-ce que je vais aller en vacances pendant la Toussaint ? Des fois, c'est un peu plus élevé. Quel travail, quel métier ou quel job je vais chercher ou trouver ? Ce sont des questions légitimes. Il n'y a rien de mal à se poser toutes ces questions. Mais est-ce que je me pose la question « Que vais-je faire de ma vie ?» Il y a un mot dans la Bible qu'on connaît bien, c'est le mot péché. C'est un mot qui devient désuet dans la société, on n'en parle plus. Et parce que le mot péché a été déformé, mal interprété, souvent comme si c'était simplement les peccadilles ou des choses qu'on ne comprend pas. Mais péché dans la Bible a une racine en hébreu, ça veut dire manquer le but, manquer la cible. C'est la racine étymologique du mot péché. Et en fait, beaucoup de gens manquent la cible dans leur vie. Ils manquent le but pour lequel ils ont été créés. Ils passent à côté de la vie. Et c'est ça, vivre dans le péché, c'est passer à côté du plan de Dieu pour sa vie. Et on peut avoir une vie même assez riche, assez pleine de choses, mais c'est plein de choses. Ce n'est pas la vie que Dieu avait prévue pour vous. Et vous passez à côté, et le jour du jugement, eh bien, vous ne pourrez pas dire, Seigneur, regarde, j'ai fait ta volonté. Non, ça c'est sûr. Vous direz, j'ai fait ma volonté, j'ai fait ce qui me plaisait, j'ai fait ce que j'ai trouvé à faire. Mais est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu? Est-ce que tu t'es posé la question, que vais-je faire de ma vie? Et j'aimerais vous dire que Dieu veut conduire notre vie. Il ne veut pas qu'on vive comme ça dans le hasard, dans l'improvisation complète du début à la fin. Il veut conduire notre vie comme un berger conduit son troupeau. Mais dans l'Église, et je dois vraiment le dire avec force, le paganisme est entré pour modifier cette pensée. Il y a beaucoup de paganisme dans l'Église. Qu'est-ce que c'est le paganisme? C'est la religion païenne avec des divinités, des dieux. Et dans la religion païenne, on ajoute un dieu après l'autre pour qu'il nous protège et qu'il nous bénisse matériellement. C'est comme ça que ça se passe dans la religion païenne. Beaucoup de religions fonctionnent comme ça. Et il y a même des chrétiens dans la chrétienté qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, il y a Jésus, et puis on rajoute des saints aussi, d'autres choses, et on dit, oh surtout que tu nous protèges et que tu me bénisses. Mais ces chrétiens ne cherchent jamais la volonté de Dieu. Ils ne sont pas conduits par Dieu. Le Dieu de la Bible, il ne veut pas nous bénir, nous protéger et nous être notre gardien. Il veut être notre berger personnel, notre sauveur, notre Seigneur. Il veut être dans notre vie et nous conduire. Et beaucoup vivent leur vie comme il leur plaît et ils disent « Seigneur, bénis ma vie comme elle me plaît. » Hein. Enfin, on ne le dit pas parce qu'on aurait honte de le dire. Mais c'est ça qu'on fait. On vit sa vie et on dit « Seigneur, je t'en prie, bénis-moi. » Et quand on n'est pas béni, alors on doute et on se pose des questions. « Seigneur, tu ne bénis pas comme les autres, ou je ne comprends pas, tu n'as pas exaucé ma prière. » Mais est-ce que tu as prié dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ou est-ce que tu es à côté du plan de Dieu? Tu es dedans ou tu es à côté? Il n'y a pas 36 voies. Quand on vient à Dieu, quand on vient à Jésus-Christ, d'une certaine façon, on lui remet les clés et le volant de notre vie. Hein, pour ceux qui ont le permis et qui conduisent, vous savez très bien ce que ça veut dire. On ne passe pas les clés et le volant à n'importe qui. Et de dire, je remets les clés de ma voiture, de ma vie, et le volant de ma vie. Alors les clés déjà, on peut dire, bon, mais le volant, c'est-à-dire ce n'est pas moi qui conduis, c'est Dieu qui me conduit, ça c'est un grand pas. Et c'est ça, la foi. C'est ça, être chrétien. C'est ça, se tourner vers Christ, se convertir à Dieu, c'est dire, je te donne les clés, voilà, la clé de mon véhicule et le volant. Seigneur, tu conduis. Avant de connaître Christ, c'est moi qui conduisais ma vie. Et j'allais dans le mur régulièrement. J'avais des accrochages, des accidents, je me plantais. Dieu m'a gardé de mourir. Il m'a permis de garder la vie et de pouvoir un jour le connaître. Dans le prophète Ésaïe, c'est écrit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Hein, Ésaïe 53. On était tous comme ça. C'est-à-dire, eh bien, moi j'ai ma voix, toi t'as ta voix, lui il a sa voix, et chacun a sa voix. Et puis Seigneur, bénis, si tu existes, bénis notre voix. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si je suis vraiment une brebis, je dois chercher le berger. Où est le berger? Qui est le berger? Et lui il veut me conduire. Il y a une promesse de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, en Jean chapitre 16, qui nous dit combien il veut nous conduire. Jean 16, verset 13. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et Jésus dit, Jean 16, 13, « Quand le Consolateur, il veut dire l'Esprit-Saint, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus dit qu'il va s'en aller, il va remonter au ciel dans la gloire de son Père, mais il dit, je vous enverrai l'autre consolateur, l'esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité. Pendant des siècles, l'Église de Rome a dit aux gens, vous ne pouvez pas connaître la vérité, vous avez besoin de l'Église, c'est-à-dire en fait la hiérarchie. Vous ne pouvez pas lire la Bible tout seul, c'est dangereux de lire la Bible tout seul. Vous avez besoin de l'Église, de son interprétation, on appelle ça le magistère de l'Église. Et le Seigneur dit non, vous n'avez pas besoin de magistère, vous n'avez pas besoin de hiérarchie. Si vous avez le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même, ça c'est intéressant. Le Saint-Esprit ne se met pas en avant, il ne demande pas qu'on le prie, il ne demande pas qu'on le glorifie ou qu'on l'adore, bien qu'il soit Dieu aussi, il est dans la Trinité, mais le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus-Christ a dit. Et on n'était pas là quand Jésus-Christ a parlé, nous. Ça fait 2000 ans. Mais le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus a dit, et notamment à travers les Écritures. Et il nous enseigne, et il nous conduit. On ne peut pas dire qu'on n'a pas toute la vérité, on a toute la vérité qu'il nous faut, par le Saint-Esprit. Alors si on cherche vraiment la vérité, on va la trouver. La vérité, ce n'est pas dans une église, la vérité, ce n'est pas en une personne. La vérité, si, une personne, je veux dire, de cette terre, la vérité, c'est Jésus-Christ. Et c'est en lui qu'il y a toute la vérité. Surtout. Et le Saint-Esprit vous conduira. Le Seigneur veut nous conduire pour que notre vie soit vraie en toutes choses. En Jean chapitre 10, Jésus se compare au bon berger. Et au verset 4, il dit « Lorsque le berger a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Et ça, c'est un fait que les bergers peuvent confirmer. Comme beaucoup d'animaux, les brebis reconnaissent la voix de leur maître. Et si le maître part devant et les appelle, les brebis, elles suivent. On voit que j'ai été berger pendant longtemps, en Corse. On trouve un moyen de les appeler pour qu'elles vous reconnaissent. Chaque berger a sa façon de parler à ses brebis. Il y en a qui leur parlent avec des mots, des vrais mots, puis il y en a qui font des bruits comme je vous ai fait. Mais quoi qu'il en soit, les brebis, elles ont l'habitude, elles connaissent la voix du berger, et même si elles ne voient pas toujours très bien, elles le suivent. Mais s'il y a un étranger qui arrive, qui dit des mots « venez avec moi », elles ne vont pas bouger. Ça, c'est normalement ce qu'est un croyant, un vrai croyant. Un croyant, il suit son berger Jésus-Christ. Il n'est plus la brebis errante qui faisait chacun sa propre voie, il est la brebis du Seigneur, vraiment, qui suit son berger sur toute la vie. Et c'est ça, à cela que Dieu nous appelle. Il veut nous conduire dans tous les domaines de notre vie, dans les détails. Dieu ne veut pas simplement être une sorte de divinité qui nous bénit matériellement. Il veut être notre berger, notre Seigneur. Il veut nous conduire même assez précisément. Il veut guider notre vie, nos décisions et nous montrer ce qu'on doit faire. Saul, il ne savait plus quoi faire, il ne savait plus où il en était. Et Jésus lui a dit, on te dira ce que tu dois faire. Et Saul a été conduit par Dieu tout le restant de sa vie jusqu'à sa mort. Il est mort, persécuté, condamné à mort, décapité par l'Empire romain. On peut dire, mais pourquoi Jésus l'a laissé mourir comme ça? Parce que Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ce n'est pas parce qu'on est un disciple de Jésus qu'on va finir dans une maison, dans un palais sur terre. Non, ce n'est pas ça que Jésus a promis. Il a promis des tribulations, il a dit. Mais il a dit que dans les tribulations, il serait avec nous et qu'il y aurait des joies extraordinaires. Il y aurait une paix magnifique. Et il y aurait surtout la vie éternelle. Vous avez déjà étudié un peu les oiseaux migrateurs? Franchement, c'est extraordinaire. C'est un miracle. Comment des oiseaux qui n'ont jamais été quelque part, c'est-à-dire ils sont nés en Europe, un jour, c'est l'heure, c'est la saison, ils démarrent et ils font 10 000 kilomètres pour aller au chaud, en Afrique, par exemple, pour les hirondelles. Et ils ne se trompent pas. Ils arrivent là où leurs parents étaient venus et personne ne leur a donné de carte ou d'indication de points de longitude et latitude. Et vous savez, sur 10 000 kilomètres, on peut facilement se tromper. C'est-à-dire, si vous faites un écart d'un mètre au départ, au bout de 10 000 kilomètres, ça fait beaucoup. Vous n'êtes plus même dans le même pays. Et ils ne se trompent pas. Ils ont un GPS dans leur cerveau et ils sont sensibles aux champs magnétiques, ils sont au soleil, à tout. C'est extraordinaire, c'est un miracle. Il y a l'oiseau qui migre le plus, c'est un oiseau qui va de l'Antarctique à l'Arctique. C'est-à-dire, il traverse la Terre, il traverse tout l'océan Pacifique en volant. Pour le faire, il faut déjà avoir des ailes, une force, une énergie. Il peut pas s'arrêter trop pour manger, il descend un petit peu manger quelques crevettes, paraît-il. Mais à part ça, il fait des milliers de kilomètres. Eh bien, si Dieu peut conduire ces oiseaux, parce que Dieu les a créés, il peut nous conduire nous aussi. D'autant plus. Il dit, est-ce que vous ne valez pas mieux que les moineaux ou que les passereaux? Et c'est vrai. Nous sommes ses enfants, ses créatures particulières, l'être humain. Il nous aime et il veut nous conduire, comme il conduit les oiseaux migrateurs. La différence entre l'oiseau migrateur et nous, c'est que l'oiseau migrateur, il suit son instinct et il obéit, et que nous, on est rebelles. C'est là où l'oiseau migrateur est supérieur à nous. C'est que nous, on sait, Dieu nous dit, va par là, et non, je vais aller par là. L'oiseau migrateur, il fait ça, il fait jamais ça. Il a son instinct. Et nous, on a notre liberté. Cette liberté est un grand avantage sur les autres animaux de la terre. Cette liberté est un immense avantage de pouvoir aimer Dieu librement, de pouvoir aimer les autres, faire des choix. Mais si on utilise notre liberté pour le mal, alors là, on va dans le mur. On est perdu. C'est pour ça que Dieu veut nous conduire dans toute sa volonté. Mais comment veut-il nous guider? Bien d'abord, on l'a vu, il y a son esprit. Quand on est chrétien, on a l'esprit de Dieu en nous. Et l'esprit de Dieu nous parle, nous touche. Alors vous me dites, est-ce qu'il nous parle comme ça? On entend une voix? Non. Mais il nous parle déjà quand on lit la Bible. Parce que l'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Quand on lit la Bible, Dieu veut nous parler. Et moins on lit la Bible, moins on entend Dieu. Et plus on s'égare. C'est pour ça que c'est important d'avoir une lecture régulière. Pas 24 heures sur 24, mais régulière. Et surtout de lire en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est terrible d'avoir un Dieu, un sauveur, et de ne jamais lui parler ni l'écouter. Imaginez que vous ayez un bon ami. Et chaque fois que vous vous rencontrez, vous lui parlez, vous lui parlez, vous lui parlez, et lui, il veut placer un mot, il dit, oui, mais tu sais, d'accord. Oui, mais je. Et chaque fois, vous l'interrompez, vous parlez, vous parlez. C'est pénible, les gens comme ça. Mais c'est comme ça qu'on est avec Dieu parfois. On lui parle, on lui dit, Seigneur, regarde, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, il y a tel et tel problème. Mais on n'écoute jamais. Pour écouter Dieu, il faut lire la Bible. Et il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu, quand il est attristé, on le sent tout de suite si on est chrétien. Et là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je n'ai pas la paix de Dieu là pour faire ça. On doit être sensible à ça, à cette voix, mais cette petite injonction hein, intérieure. Je suis toujours frappé en faisant du voilier. Vous bougez légèrement hein, la barre et le bateau tourne beaucoup. Vous n'avez pas besoin de faire des grands, de tirer énormément. Le bateau répond très. Et pourtant, c'est un gros bateau avec un tout petit gouvernail. Pourquoi? Parce qu'il est sensible au gouvernail. Et nous, on devrait être sensible au Saint-Esprit lorsqu'il nous dit, non, ça, c'est pas dans ma volonté, c'est pas dans le plan de Dieu. Dieu veut aussi qu'on lui demande sa volonté. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. J'aime beaucoup le psaume 143. Et ici, dans ce psaume, David prie le Seigneur au verset 8, Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Je te fais confiance, Seigneur. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Voilà la prière de David. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Et puis, verset 10, Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. C'est une prière. Seigneur, on peut tous les matins dire, Seigneur, montre-moi le chemin de la journée. Nous, on a déjà prévu, à telle heure je vais là, j'ai rendez-vous, tac, 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 pouf, pouf, tout est prévu. Mais Dieu a d'autres projets peut-être. Et il veut nous faire rencontrer des gens, des situations, nous éprouver, nous bénir par différentes choses. Et il faut être prêt. Ne pas être dans un rail. On est souvent dans une ornière ou un rail. On est, voilà, ma vie, c'est comme ça. Jusqu'à la fin de mes jours, je vais être comme ça. Non. Avec le Seigneur, avec la foi, il y a des aventures. C'est ça que j'aime bien avec la foi. Il y a de l'aventure. Alors, il y a des gens qui aiment les aventures et il y en a qui ont horreur de ça. Il y a des personnes qui sont pantouflardes, comme on dit. Et c'est pas méprisant, c'est la façon de s'exprimer. C'est-à-dire, il faut que ça reste comme c'est. Hein. Il ne faut pas que ça bouge. Mais quand on est chrétien, il faut être prêt à être bougé. Les disciples de Jésus, ils en ont vu. Mais quand on est avec le Seigneur, on n'a rien à craindre. On est plus en sécurité dans la volonté de Dieu, dans un lieu qui nous paraît dangereux, que hors de la volonté de Dieu, dans un lieu qui nous paraît sûr. Il y a ce fait divers terrible, cette nuit ou hier soir, de ces jeunes qui faisaient la fête. Ils étaient sur un balcon, vous savez comment on se met dans les appartements, on ouvre la porte-fenêtre, on se met sur le balcon, il y a la musique, tout le monde discute, on a moins chaud, et le balcon est tombé. 3 sont morts. Vous dites, je crains rien, je suis sur un balcon, bon, on a un balcon, normalement ça tient, quoi. C'était un immeuble presque neuf. Non, quand vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu... Attention. Dieu veut nous conduire, nous montrer la direction. Il y a aussi sa providence qui nous guide. La providence de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu fait concourir les choses au bien de ses enfants. Il fait concourir des événements, des situations qui nous amènent à une autre situation. Et en fait, c'est Dieu qui a conduit. Le plus beau livre qui parle de la providence, c'est le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'apparaît nulle part. C'est étonnant quand même. Dans la Bible, il y a un livre où il n'y a pas le nom de Dieu. Et pourtant, Dieu est partout dans le livre d'Esther. Esther, c'est cette jeune femme juive qui est en captivité en Perse. Et le roi décide d'avoir une nouvelle femme parce que son ex ne lui a pas obéi. Et il va chercher la plus belle fille du royaume. Et ça tombe sur Esther. On pourrait dire, mais Seigneur, être femme d'un roi comme ça, c'était... dégoûtant, c'était horrible, c'était une jeune fille vierge, elle allait devoir épouser de force cet homme cruel, hein. Les rois de Perse, c'est très cruel, et mettez-vous, mesdames, à la place de cette jeune fille. Elle dit, mais pourquoi, moi je suis croyante, pourquoi Dieu permet ça? Et elle se retrouve choisie, hein, parmi des centaines de femmes, c'est elle, il dit, c'est toi, tu es magnifique, tu es la plus belle, je te veux pour femme. Elle ne comprend pas. Et peu de temps après, elle finit par comprendre que le peuple juif était menacé de mort par le premier ministre Haman, qui voulait tous les tuer, déjà, hein, à l'époque. C'est pas nouveau avec Hitler. Hein. Et elle se retrouve à un poste idéal. Elle est la reine, avec l'écoute du roi. Sauf que le roi ne l'avait pas appelée depuis des semaines. Alors, c'était dangereux pour elle d'aller le voir, mais elle prend son courage à deux mains et elle va le voir. Elle dit, il faut que je te parle. Et elle va finir par lui dire que son peuple est en danger et qu'elle est juive, parce qu'il ne savait pas qu'elle était juive. Et elle va sauver le peuple juif. Aujourd'hui, les juifs fêtent... comment ça s'appelle la fête? Pourim, voilà, je me dis. Voilà, Pourim, parce que pour le pur, c'est le sort, c'est le destin, c'est le hasard. Et justement, c'est la providence, en fait. La providence de Dieu a conduit Esther à cette place pour qu'elle sauve son peuple. Elle n'avait pas tout prévu, elle n'avait pas dit « je vais devenir reine » parce que non, elle ne voulait pas, surtout pas. Et Dieu nous conduit par sa providence. Ça ne veut pas dire que nous sommes mus par un destin immuable. Ce n'est pas vrai. Mais quand on est croyant, on peut se laisser conduire par Dieu, dire « Seigneur, conduis ma vie ». Si Paul, par exemple, Dieu lui a dit, et le Seigneur lui a dit en tant de mots, « tu vas témoigner de moi devant les rois » et les gouverneurs. Et Paul a été arrêté pour sa foi, mis en prison, Mais comme il était citoyen romain, il a fait appel et du coup s'est retrouvé devant le gouverneur. Alors lui, il aurait peut-être préféré aller témoigner au gouverneur autrement qu'avec les chaînes. Il aurait pu devenir un personnage important à Rome et puis parler avec le gouverneur dans un bon repas, un bon gueuleton avec le gouverneur. Mais lui, il a été mis en prison et en tant que prisonnier, il a pu donner son témoignage, tout ça est dans le livre des Actes. Dieu, par sa providence, va conduire notre vie. Nous, qu'est-ce que nous avons à faire dans tout ça? Rester fidèle, être fidèle. C'est ça qui est le plus important. La vertu cardinale du chrétien, c'est la fidélité à Dieu. Dans fidélité, il y a foi aussi, hein? Foi, fidélité. C'est d'obéir au Seigneur, de compter sur lui en tout temps. Dieu, par contre, ne veut pas nous dire ce qu'il faut faire à chaque seconde, parce que là, on peut tomber dans un piège. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup lire Tintin, et j'aimais bien le capitaine Haddock parce que je le trouvais rigolo. Et un jour, le capitaine Haddock a eu un problème, et comme il avait sa barbe, il ne savait pas s'il devait dormir avec la barbe sous la couverture ou sur la couverture. Alors, il était là, non. Et il a passé quasiment toute la nuit à se demander où était, comment il devait dormir. Moi, ça m'a fait rire, mais maintenant, je comprends la chose. Est-ce que je dois passer à droite du poteau ou à gauche du poteau? Est-ce que je dois manger du couscous ou de la pizza? Vous savez, on peut devenir fou comme ça. Hein? Dieu veut nous conduire dans notre vie générale aussi, par sa providence. Bien sûr, le Saint-Esprit, si vous dites, tiens, je vais me manger un troisième couscous de la journée, et que le Saint-Esprit vous dit, t'es peut-être trop là. Là, on peut obéir, effectivement, parce que ce n'est pas bon pour la santé. Mais le Seigneur ne s'intéresse pas tellement au couscous, ou à droite du poteau, à gauche du poteau, ou à la barbe. Il s'intéresse à des choses spirituelles plus importantes, au grand choix de ma vie aussi. Bien sûr, il peut me protéger, et si je suis fidèle au Seigneur, si je suis prudent, il me protégera aussi, mais si je ne suis pas prudent, je peux avoir un accident comme les autres. Pas parce que je suis chrétien, que j'ai des anges qui me protègent en permanence. Il dit, ne tentez pas le Seigneur. Il dit, moi, je peux traverser, c'est vert, c'est rouge, c'est jaune, c'est bleu, ça m'est égal, je traverse. Le Seigneur me protégera. Non, ça, ce n'est pas être dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, j'obéis aux lois. Le feu rouge est une loi. Alors nous, les Parisiens, nous savons qu'on peut passer... traverser au feu vert, c'est la loi des Parisiens, mais on regarde quand même s'il n'y a pas de voiture qui arrive. Mais Dieu ne veut pas nous conduire dans les petits détails presque ridicules. Et c'est là qu'il faut vraiment être sage. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? En fait, quand je lui remets toute ma vie, il me conduit naturellement. Je n'ai pas à me poser la question à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est le Seigneur qui conduit ma vie. Je suis dans sa paix, dans sa joie. Il y a un verset qui nous parle de ça, c'est Romains chapitre 12, qui est très important au sujet de la volonté de Dieu. Que vais-je faire de ma vie? Et ce sera le dernier verset. Romains, et c'est Paul qui a écrit, hein, le Saul de Tarse qui est devenu Paul. Il écrit, « Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ici, dans ce passage, il nous dit « Donnez-vous à Dieu ». Tout entier, il parle du corps, mais en fait, le corps, c'est moi, hein, c'est mon être entier. Quand je me donne à Dieu, Dieu me conduit, Dieu prend le volant de ma vie. Mais il faut que je lui passe le volant, vraiment. Les vitesses, les pédales, les clés, tout. La carte de grise, je lui donne tout. Seigneur, prends tout et conduis ma vie. Et il le fait d'une façon extraordinaire. Mais nous, on est là, on dit, oh là là, mais si je fais ça, Dieu va me demander des choses pénibles. Dieu va demander des choses que j'aille là où je ne veux pas aller. Si je fais ça, alors je pourrai plus jamais m'amuser, rigoler ou avoir du plaisir, parce que la volonté de Dieu, ça va être vraiment... Ben, c'est faux. Ça, c'est des mensonges vraiment diaboliques. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit sur la volonté de Dieu, verset 3, afin que vous verset 2, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est la volonté de Dieu. Elle est bonne, agréable et parfaite. On ne peut pas demander plus. Hein. Est-ce que vous voulez quelque chose de parfait dans votre vie? Oui, faites la volonté de Dieu. Vous voulez quelque chose de bon dans votre vie? Oui. Vous voulez quelque chose d'agréable? Faites la volonté de Dieu. Ça m'est arrivé, en faisant la volonté de Dieu, d'aller dans des lieux que je n'avais pas prévus, où je n'aurais pas été naturellement. Mais quand j'y étais, j'étais tellement béni et heureux. Mais moi, je n'aurais pas été, si j'avais dû choisir. Mais quand j'y étais, c'était extraordinaire. Ce n'était pas pénible. Ce n'est jamais pénible d'être dans la volonté de Dieu. Ce qui est pénible, c'est de ne pas vouloir la faire. Parce que quand vous êtes en opposition à Dieu, là, c'est pénible. Parce qu'il y a cette guerre en vous. Vous êtes là, ah non, oui, non. Mais quand vous cédez à Dieu, vous dites, Seigneur, je veux faire ta volonté, prends ma vie. Vous êtes dans la paix, vous êtes heureux. Et le Seigneur conduit votre vie d'une façon magnifique. Maintenant, avec tout cela, tous ces versets de la Bible, avec toutes ces pensées sur que ferais-je de ma vie, il reste la dernière étape, c'est de donner sa vie pour de bon. Moi, je vous en ai parlé là. Mais parler, c'est une chose. Agir, c'est une autre. Pour donner sa vie, il faut se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je te donne le volant, je te donne les clés, je te donne ma vie, mes projets, mes désirs. Quand j'étais incroyant, quand j'étais athée en particulier, j'étais gouverné par mes passions. C'était mes passions qui dirigeaient ma vie. Donc il y avait des bonnes passions, mais il y avait surtout beaucoup de mauvaises passions. Et les mauvaises passions me coulaient, m'enfonçaient dans le mal, de plus en plus, de jour en jour. Et dans le désespoir, j'étais cynique, abattu, déprimé, sombre. Je m'habillais tout en noir quand j'étais ado. Hein. Je mettais même du maquillage sur les yeux pour faire un peu plus mystérieux. Un peu comme les jeunes... gothique. C'était le début du gothique. Et dans mes yeux, il n'y avait rien. Il y avait les ténèbres. Quand je me suis tourné vers le Seigneur, quand j'ai entendu la bonne nouvelle, ça a tout changé radicalement du jour au lendemain. Le Seigneur a mis de la couleur dans ma vie, de la joie, et il m'a donné un sens. Je savais où j'allais. Peut-être que vous êtes là ce matin, vous n'avez jamais remis votre vie à Jésus-Christ. Lui, il a donné sa vie pour vous. Hein. Il a fait, lui. Sur cette croix, il est mort pour vous aussi. Mais vous, est-ce que vous êtes prêt à lui faire confiance, à lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Moi, je vais dans le péché. Je passe à côté du plan de Dieu. Mais maintenant, je veux que tu sois mon berger. Je veux que tu sois mon sauveur, que tu me pardonnes toutes mes fautes. Tu me laves et que tu me donnes une nouvelle vie. Vous pouvez faire cette prière avec vos propres mots. Et le Seigneur vous entend et vous sauvera, il vous prendra et il fera de vous son enfant et il vous conduira. Vous qui êtes déjà chrétien, qui êtes déjà entré dans la bergerie, comme on dit, qui êtes déjà venu au Seigneur, vous avez eu une conversion, mais peut-être vous n'avez pas donné toute votre vie au Seigneur. Vous gardez le volant. Vous dites, Seigneur, tu t'assois sur le côté passager et tu me protèges. Ben oui, mais ce n'est pas possible. Pour qu'il nous protège, il faut qu'il tienne le volant. Seigneur, là aussi, en tant que chrétien, on doit dire, prends ma vie. Si tu dois m'appeler à ceci ou cela, si tu dois m'envoyer par-ci ou par-là, si tu dois me demander de faire telle ou telle chose ou de renoncer à telle ou telle chose, Seigneur, je suis prêt à le faire. Est-ce que vous êtes prêt? On va terminer par la prière, justement. Prenons quelques secondes de silence pour méditer ce que nous avons entendu. Dieu nous propose un choix, de le suivre ou de ne pas le suivre, de l'accepter comme notre sauveur ou de le refuser, de devenir son enfant ou de ne pas être son enfant, d'avoir la vie éternelle ou de ne pas avoir la vie, d'être pardonné ou de ne pas être pardonné. Maintenant, c'est entre nos mains, entre vos mains, c'est dans votre cœur. Seigneur, je t'accepte ou Seigneur, je te refuse. Le Seigneur vous appelle. Il a tout préparé pour vous. Il est mort pour vous. Il a payé votre dette sur la croix. Mais il est aussi ressuscité. Il a vaincu la mort pour vous. Il vous prépare une place. Il a un projet de paix pour vous, pour votre vie. Est-ce que vous voulez entrer dans ce projet ? Que tu touches les cœurs ce matin, que tu bénisses ceux qui sont en train de se poser la question, qu'ils voient à quel point tu les aimes, à quel point tu es un Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde. Seigneur, je prie aussi pour les chrétiens que nous soyons vraiment consacrés à toi, sérieusement, entièrement, et que tu ne sois pas juste un bon génie qui nous aide, mais que tu sois notre Dieu, notre Seigneur, notre Père. Et Seigneur, nous te remettons notre vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.